Salon Noir. Pouvait traiter le Salon Noir un 29 février, ce 60e jour du calendrier grégorien, mais aussi du calendrier julien, en cas d'année bissextile, donc lors d'une année de 366 jours. Le Salon Noir ne pouvait que se pencher sur la mesure du temps. Par chance, les sociétés passées ont très tôt tenté de calculer le temps qui passe, voire le temps qui reste, et cela selon de nombreuses méthodes. On pense alors aux gigantesques mégalithes de Stonehenge en Angleterre, aux disques de Nebra découverts voici 13 ans en Allemagne et vieux de plus de 3600 ans, ou encore au fameux calendrier perpétuel de Coligny appartenant à la période gauloise. Des calendriers, les archéologues en ont trouvé, calendrier maya, chinois, égyptien, mais mon choix s'est porté aujourd'hui sur celui de la Mésopotamie. Rappelons tout de suite que les Mésopotamiens avaient pour particularité d'avoir le passé devant eux, l'avenir dans le dos. Pour en parler, un des plus grands spécialistes du monde mésopotamien, Jean-Jacques Glasner, bonjour.
Bonjour.
Directeur de recherche émérite au CNRS, professeur à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes épigraphiste, travaillez tant sur l'invention de l'écriture que la construction des savoirs en Mésopotamie. La divination est aussi un de vos thèmes de recherche. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Je le disais, Jean-Jacques Glasner, les Mésopotamiens avaient pour particularité d'avoir le passé devant eux. Une drôle de conception du monde ?
Une conception du monde qui est souvent partagée par d'autres cultures et d'autres gens. Mais tout simplement, c'est une façon d'approche. Le temps est jugé et jaugé à l'aune de l'espace. Donc, quand quelqu'un, les grammairiens le diront, et les spécialistes de la Mésopotamie sont surtout des philologues, on a des adverbes, on a des prépositions qui nous disent devant ou avant, ou bien derrière et après. Eh bien, l'usage de ces prépositions et de ces divers adverbes dit simplement que quand vous êtes devant quelqu'un, ce quelqu'un est avant vous. Et quand vous êtes derrière quelque chose, cette chose est après vous. L'avenir étant après vous, il est nécessairement derrière vous. C'est tout simplement l'alignement de la notion d'espace et la notion de temps.
C'est-à-dire que pour nous, le présent correspond à un emplacement de soi. Aujourd'hui, nous spatialisons le temps avant et après. Et nous avons même quelques mots curieux avec avant-hier, après-demain. Il y avait la même chose aussi chez les Mésopotamiens ?
Oui, c'est un peu plus simple en Mésopotamie et on n'a pas toutes les données. Mais je voudrais ajouter tout de même une image très forte et qui montre qu'on ne se limite pas simplement à la grammaire et aux adverbes ou aux prépositions. Mais quand Gilgamesh, dans le célèbre Gilgamesh dans l'épopée, parcourt l'espace et entre et poursuit le soleil sur son propre cheminement, il avance en regardant derrière lui. Parce qu'il avance en sachant le parcours qu'il a accompli et il peut le visualiser. Il ne peut pas visualiser ce qu'il va accomplir dans le futur. Donc il y a là un jeu qui est plus qu'un jeu de grammaire et d'espace et de temps. Il y a là un jeu complet qui mériterait d'être analysé plus avant, mais le temps de l'émission n'y suffirait pas.
Et puisqu'on parle de l'épopée de Gilgamesh, ce passage appartient au début, à la fin, quel est le contexte exact ?
C'est vers la fin. C'est vers la fin, quand il est déjà, quand il a quitté la terre humaine et qu'il est déjà dans sa stratégie de recherche de la vie éternelle.
Et perdu, bien sûr, son ami.
Et perdu son ami et où lui-même va se perdre.
On connaît l'aphorisme de Pierre Dac, tout à fait extraordinaire. L'avenir de monsieur est devant lui et il l'aura dans le dos chaque fois qu'il fait demi-tour. La Mésopotamie fut-elle la seule à avoir cette perception du temps ?
Non, sûrement pas, et je ne suis pas très spécialiste d'autres civilisations ou d'autres cultures. On ne sait plus très bien comment on peut utiliser le mot civilisation aujourd'hui, en France du moins. Mais il y a des exemples illustres de civilisations qui ont l'avenir dans le dos, et ça n'est pas surprenant. C'est cette manière de parcourir l'inconnu ou de parcourir le connu, en réalité, qui fait qu'on tourne le dos. Enfin, c'est une image, en fait, c'est une métaphore. On ne tourne pas le dos à l'avenir parce qu'on sait le passé, et donc on voit le passé, on peut le visualiser, le conceptualiser. Il est beaucoup plus difficile de visualiser et de concevoir et de conceptualiser l'avenir.
On a longtemps pensé que toutes les cultures humaines avaient perçu l'avenir face à eux. Il n'en est rien. Aujourd'hui, deux sociétés perçoivent le passé face à eux. Les Aymara, visiblement, de Bolivie, mais aussi les Polynésiens, avec la notion de Moa et de Mori, en déplaise, bien sûr, à certains gouvernements versés dans la modernité et le futur. Reste une vraie question, Jean-Jacques Glasner. Selon le modèle mésopotamien, peut-on dire que nous sommes réellement plus jeunes que nos enfants? Nos ancêtres sont alors bien plus jeunes que nous?
Oui, que nos ancêtres soient plus jeunes que nous par rapport à la création et à l'origine du monde et à l'origine de la vie, ils l'étaient évidemment, si on prend ce point de vue et ce chemin de traverse. Mais tout cela est très relatif, en fait. Il y a une grande relativité. Nos vies sont compliquées, sont plus ou moins longues, s'entrechoquent éventuellement les unes sur les autres, les générations les unes sur les autres. En Mésopotamie, on avait une vision assez particulière, du moins dans une partie de la Mésopotamie, une vision assez particulière du mouvement du temps historique. On le concevait comme sinusoïdal. Il y a des sociétés comme l'Inde védique, par exemple, où le temps était conçu comme des cycles qui se succèdent, et des cycles fermés. On arrive à la fin d'un cycle, tout s'arrête. On est à la fin du monde.
Les Mayas aussi, bien sûr.
Et les Mayas, bien sûr, aussi. Et ensuite, un nouveau monde se crée et va durer le temps qu'il doit durer, etc. En Mésopotamie, ce système, ce ne sont pas des cycles qui se succèdent. On va trop souvent écrire cette assertion qui n'est pas vraiment exacte. En réalité, les cycles ne sont pas fermés. Il faut ouvrir le cercle et le transformer en un sinusoïde. Et donc les cycles ouverts comme des sinusoïdes se succèdent dans le temps et se chevauchent dans le temps, un cycle pouvant commencer avant la fin du cycle précédent et ainsi de suite. Et c'est comme ça que le temps se déploie dans l'espace interminable du mouvement de l'histoire.
Quel est d'ailleurs, Jean-Jacques Glasner, le mythe fondateur chez les Mésopotamiens, l'origine du monde, s'il en a une,
bien sûr. Oui, alors il y a une quantité de points de départ, parce que ce ne sont pas des civilisations dogmatiques. Donc chaque clergé qui avait envie de raconter quelque chose en fonction d'un dieu X, Y ou Z pouvait raconter ce qu'il voulait. Très rapidement, ils sont toutefois arrivés à une idée clé et qui sera dominante pendant 1500 ans de leur histoire. Le dieu créateur fonde le cosmos. Mais avant d'avoir achevé la fondation du cosmos, il s'occupe du ciel. Et tout de suite, pour lui donner vie, il crée le mouvement, et ce mouvement, c'est le temps. Donc il inscrit le temps dans l'espace. Voilà déjà une première donnée fondamentale d'origine. Deux, il crée la justice, pour que les dieux de la justice vérifient que le fonctionnement des astres dans le ciel et des planètes suit le mouvement régulier qui leur est imposé. Et là, c'est une chose très intéressante, où l'on voit que le créateur n'accomplit pas véritablement une création. Il transforme ce qui existe. L'univers existait, mais les étoiles et les planètes circulaient dans n'importe quel sens, à n'importe quelle vitesse et n'importe où, n'importe comment. Ce que fait le Créateur, c'est de leur donner un mouvement et de leur imposer un mouvement. Alors il parsème le ciel de balises, des étoiles ou des planètes, qui sont des repères, et entre lesquelles et avec lesquelles toutes les planètes et toutes les étoiles doivent circuler. Donc il impose un ordre. Et cet ordre, c'est l'ordre cosmique imposé par le démiurge. Donc il n'est pas vraiment créateur, il change l'ordre de ce qui est déjà là. et les Mésopotamiens, et c'est une chose qu'on oublie trop souvent, et que même les spécialistes oublient trop souvent, ont toujours eu cela dans l'esprit. Des commentateurs, donc des scribes, à la solde d'un roi d'Assyrie du 7e siècle, écrivent que le dieu de la justice surveille le cheminement juste et véridique des astres et des étoiles dans le ciel, pour qu'elles ne quittent pas, et si elles le quittent, elles sont punies par le juge suprême que sont les dieux. Et ils surveillent ce cheminement, égard à celles qui s'écarteraient de leur route. Donc la justice aussi a immédiatement à faire avec cette construction du monde. On est là, très peu éloigné dans le temps. 7e siècle, c'est le siècle d'Hésiode. Et on est très peu éloigné des travaux et les jours d'Hésiode, qui racontent la même chose, mais avec plus de détails. Ça, c'est impressionnant. Donc la Méditerranée orientale a inventé là quelque chose qui continue encore à circuler aujourd'hui.
Vous me parliez de plusieurs points de départ. Quels pourraient être les autres ?
Alors, on a des textes mythologiques beaucoup plus courts, ou des extraits, ou des connaissances de bribes. Donc, je peux faire un discours beaucoup moins construit, puisque ce ne sont que des morceaux de discours. Mais on a d'autres visions de la création du monde qui n'ont pas rapport nécessairement avec le ciel et les planètes, mais avec l'organisation sur Terre de l'espace et du temps.
Et est-ce que, bien sûr, la fin du monde peut être envisagée par les Mésopotamiens comme cela peut l'être avec 2012 et les Mayas ? Question voilà. Que j'imagine des auditeurs doivent se poser.
Oui, alors, puisque les Mésopotamiens ont inventé le système sinusoïdal, il n'y a pas véritablement de fin du monde. Mais le monde est sans arrêt menacé par la déviation que peuvent avoir tous les étangs qui vivent dans le cosmos. Si la planète Jupiter un jour change de circuit, les dieux auront beau la punir sur le plan juridique et lui infliger des amendes, n'empêche qu'elle met l'ensemble du système en danger. Et en danger, ça veut dire non pas la fin, c'est la fin du système, mais ce n'est pas la fin du monde, puisqu'on revient, ou bien on va vers un autre monde, ou bien on revient au monde antérieur. C'est comme ça, excusez-moi de vous interrompre, c'est comme ça qu'on comprend que dans les grands traités d'astrologie, 80% des présages célestes sont impossibles à concevoir parce qu'on imagine des éclipses de soleil en pleine nuit ou des éclipses de lune quand les astronomes montrent qu'elles ne peuvent pas avoir lieu. Mais si elles peuvent avoir lieu, si la lune s'égare, change le système, et à ce moment-là, on est confronté à quelque chose. Les astrologues babyloniens le savaient, les astronomes babyloniens le savaient mais n'en parlaient pas, et les astrologues en parlaient longuement. Et c'est comme ça qu'on explique que 80% des présages qui disent ceci ou cela étaient impossibles à nos yeux.
Vous me parlez de l'avenir avec l'astrologie. Je reviens au passé. Les Mésopotamiens se sont-ils réellement intéressés à leur passé et au passé ?
Oui, alors les rois d'abord, pour légitimer leur pouvoir, ne cessaient de dire qu'ils étaient les descendants d'un tel qui avait vécu 3200 ans avant eux. Le pire, c'est que quand on vérifie les dates et qu'on vérifie les chronologies que nous sommes aujourd'hui capables d'élaborer, il n'était pas loin de la vérité, puisque une civilisation qui a duré 3000 ans, vous pouvez trouver en Assyrie des rois qui ont vécu 3000 ans avec vous, avant vous, et vous pouvez vous réclamer, c'est tout à fait faux, mais vous pouvez vous réclamer de leur descendance, en tout cas de leur succession. Donc oui, il y a une profondeur historique qui les a impressionnés, et dans certains milieux de prêtres, et dans les palais royaux surtout, mais aussi à partir du milieu du premier millénaire, dans des cercles de lettrés privés, dans des domiciles privés, on s'est mis à étudier l'histoire avec beaucoup d'attention, parce que c'est une société très conservatrice. Il y avait un principe, l'avenir, et il y a des devins qui le disent, l'avenir doit être comme le passé. S'il n'est pas comme le passé, on est en danger, parce que tout peut arriver. Donc il vaut mieux reproduire le passé, c'est le conservatisme dans son essence, parce qu'alors on est sûr d'être dans la tradition et à l'oreille des dieux.
Et puis il y a aussi les premières fouilles de l'humanité. On ne peut pas passer sous silence les fouilles de Nabonide.
Il y a les fouilles de Nabonide, oui, enfin ils se sont intéressés. C'est toujours la même chose, c'est la tradition. On fait des fouilles quand on veut moderniser un temple ou le reconstruire s'il a été abîmé, ou le restaurer s'il a été abîmé. Donc il faut trouver les textes de fondation. qui établissent le plan du temple ou qui établissent la manière dont la statue du dieu doit être figurée. À défaut de les trouver, on est dans l'incapacité de faire un temple ou de faire une statue divine. On a un texte formidable qui explique cela. Donc il faut toujours se tourner vers le passé qui est l'exemple. L'événement historique passé est un exemplum dont il faut s'inspirer.
Namonide, 8e siècle avant notre ère, à peu près.
Sixième.
En tout cas, on est très proche aussi, et on se doit presque de faire le parallèle avec les empereurs antiquaires de la Chine. On est sur la même chose, un peu la recherche de ce passé. On s'entoure de ce passé qui permet, par la même occasion, de se légitimer,
absolument. C'est sa profondeur historique qui fait qu'on est légitimé sur un trône.
Le calendrier rythme bien sûr les activités agricoles, mais aussi religieuses. Sur quoi ce calendrier est-il basé en Mésopotamie ?
Oui, alors là, on touche le vif du sujet. Eh bien, quand le dieu, j'en reviens simplement une minute au mythe fondateur dont je parlais tout à l'heure, quand le dieu crée l'espace et immédiatement le temps, il subdivise le temps en unités égales à elles-mêmes. L'année, toutes les années sont égales à elles-mêmes. Le mois, il met 12 mois dans une année. Chaque mois a une trentaine de jours. C'est le mois idéal. Et les mois sont divisés en jours, et les jours sont divisés en nuits et en journées. Voilà. Donc voilà une succession de données intangibles. C'est celle qu'on vit au quotidien et sans arrêt. Alors l'année, elle est établie. C'est une année solaire. L'année solaire subdivisée en mois. Les mois sont des mois lunaires. Voilà que naît un problème énorme. Les mois lunaires ont 28 jours, multipliés par 12, ça ne fait pas 365. L'année solaire a 365 plus un petit quelque chose, il va falloir raccorder tout cela. Alors on le raccorde, on en est conscient tout simplement, parce que à Babylone, l'année commençait traditionnellement au solstice de printemps, à l'équinoxe de printemps. Pardon. Donc à ce moment-là, on regarde. On va dans les champs et on voit si le grain est en train de germer ou non. S'il commence à germer, on dit c'est le moment du début de l'année. S'il n'est pas encore, on attend un peu. Et si on a raté le moment, on a raté le moment. Et puis on essaye de raccorder les choses. Mais ça, c'est l'année solaire qui s'installe. Et on subdivise cette année solaire en mois lunaire. Comment résoudre ce paradoxe ? Alors, n'ayant aucun moyen de calculer quoi que ce soit, pendant un millénaire et demi, de façon erratique, quand on sentait que vraiment on n'était plus dans la saison et qu'il y avait un décalage, on ajoutait un mois supplémentaire. Donc les rois, c'était eux, avec les prêtres et les savants, les érudits, qui observaient la nature et qui observaient les astres, ont décidé d'une manière erratique d'ajouter un mois. Alors ce mois, selon la perception de la temporalité réelle dans les campagnes, ce mois pouvait être plus ou moins long, plus ou moins court. On ajoutait 3 jours par-ci, on ajoutait 3 semaines par-là, et on arrivait à force de bricoler à faire en sorte que la lune et le soleil se tiennent main dans la main.
Donc, Jean-Jacques Lasserre, si j'ai bien compris, nous sommes sur une sorte de calendrier lunisolaire, marchant à la fois, voilà, bien sûr, sur le soleil, la lune, et puis par force, la saison, puisque la saison est absolument capitale. Vous me dites, quand débuterait l'année, vous me dites le jour de l'équinoxe de printemps. À regarder d'un peu plus près, je me suis aperçu que Aïbla, à Assur, c'était pas du tout cet équinoxe de printemps.
Oui, alors, on a le choix. En Babylonie aussi, selon les villes, c'est l'équinoxe de printemps ou l'équinoxe de l'automne. De l'automne. Printemps et automne n'étant pas 2 saisons qui existent en Mésopotamie, il y a l'hiver et l'été. Il y a le moment froid et pluvieux, puis le moment chaud et sec. Entre les deux, les saisons intermédiaires ont très peu d'existence. Donc on a le choix. C'est une question de convention. C'est une question de calendrier religieux, ça n'est pas une question d'adhésion à la nature, que l'année commence là ou là. Il y a même dans certaines villes, on commence au solstice d'été. Parce qu'on calcule la longueur du jour et de la nuit, la longueur réciproque du jour et de la nuit, et quand on voit que le jour est très très long, et est au maximum par rapport à et la nuit la plus courte, à ce moment-là on dit c'est là le début de l'année. C'est une question de convention, ça n'a aucune, finalement ça n'a aucun effet, aucune espèce d'importance.
Bien sûr. Pour nos auditeurs de France Culture, je rappelle Jean-Jacques Glasner que vous êtes directeur de recherche au CNRS, épigraphiste, bien sûr spécialiste de la Mésopotamie. Yom Kippour des Israélites pourrait-il avoir un lien avec le système mésopotamien?
Eh bien, c'est tout à fait indépendant. Enfin, puisqu'il y a le mois lunaire qui intervient, évidemment, on retrouve des données mésopotamiennes, mais c'est une donnée qui est tout à fait hébraïque ou judéenne et qui est antérieure à l'exil des Judéens à Babylone. Il n'y a pas de référence à l'année solaire. Donc le nouvel an dans le monde judéen circule à travers l'année solaire. On dit souvent que ce sont des calendriers propres à des sociétés nomades. Effectivement, on suit les troupeaux, mais on ne fait pas germer le grain. Donc on n'a pas ce problème d'adhésion et d'adéquation à l'année solaire.
Et puis, bien sûr, il faut aussi compter les années. Et les années semblent être comptées à partir du règne des rois, c'est bien ça,
voilà.
Jacques Glasner ?
Voilà, il n'y a pas de compute qui dise en 1 jusqu'à l'an 1 plus infini. On compte par année de règne d'un roi. Alors, il y a deux possibilités, selon les époques, et selon les villes, et selon les royaumes. Ou bien on prend l'année 1 à X, jusqu'à la mort du roi, et puis le roi suivant 1 à X jusqu'à la mort du successeur, et ainsi de suite. Mais pendant environ 1200 ans, 1300 ans, on a décidé de donner aux années des noms précis qui font allusion à des événements importants qui se sont déroulés, soit l'année antérieure, soit au début de l'année en question.
Une sorte de l'année où le roi a construit ceci ou
voilà.
Cela. On est dans la propagande, là.
Non, on est dans la construction du social, à savoir que l'année où le roi a remporté telle bataille, l'année où le roi a désigné tel prêtre, l'année où le roi a construit le temple, a construit l'enceinte de telle ville, etc. On est dans la construction de l'espace du royaume et dans l'harmonisation de la société, puisque tous les éléments de la société sont pris en compte à travers le religieux et gravitent autour du pouvoir royal.
L'écriture permet bien sûr de contrôler ce que l'homme ne peut normalement pas atteindre. On pense bien sûr à la liste royale sumérienne, par exemple.
Oui.
On joue avec le temps, les rois, les dieux.
Ben là, on joue avec le temps, l'espace, pas tellement avec les dieux, parce que c'est une denrée avec laquelle il est difficile de cohabiter en jouant avec. Et ils peuvent se fâcher, et ils se fâchent souvent. Non, c'est une manière de jouer avec l'espace et le temps et la légitimité du système monarchique. C'est un grand texte qui a été composé vers 2200 avant notre ère, dans un palais, c'est le palais d'un roi qui s'appelle Naram-Sin, roi de la ville d'Akkadée. C'est la dynastie d'Akkadée et la dynastie qui est la première, donc dans le deuxième tiers du troisième millénaire, à unifier toute la Mésopotamie, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Et ce roi, Naram-Sin, lorsqu'il succède à son père et à son oncle et à son grand-père, se trouve confronté à une terrible révolte de toutes les grandes villes, elles sont trois, qui constituent son empire, si j'ose dire, empire. Et ces trois villes, ce sont trois villes d'une haute historicité et d'une très grande profondeur historique. Ce sont trois villes où la monarchie s'était déployée pendant plusieurs siècles. Donc des lieux importants. Les trois rois qui se révoltent, en fait, sont élus par leur propre population. Ils sont donc légitimes. Quand je parle de rebelles, j'épouse le discours de Naram-Sin. Ils sont légitimes et ils font des alliances avec d'autres peuples et d'autres royaumes alentour. Donc c'est un combat cosmique, quasiment, que mène le Naram-Sin. Il remporte neuf victoires en une seule année contre les trois rois. Il les écrase et se glorifie de ces neuf victoires en une seule année contre trois rois rebelles. Quelques mille ans après lui, un successeur de Hammurabi de Babylone se glorifiera de la même chose pour avoir établi l'unicité du royaume de Babylone. Et Darius Ier, alors plus de 2000 ans après se glorifiera d'avoir remporté en une seule année 29 victoires contre 9 rois rebelles. C'est la même chose, c'est un leitmotiv fantastique, mais c'est un leitmotiv qui montre que dans l'Orient ancien, on a inventé, vers 2200 avant notre ère, un texte qui dit et qui fonde la légitimité d'une monarchie, d'une dynastie. C'est prodigieux. Les Capétiens avaient inventé le récit de Bouvines, mais là, ça a duré beaucoup moins longtemps, mais ça a été efficace quand même.
L'astronomie est une des activités intellectuelles les plus célèbres chez les Mésopotamiens. Que nous ont-ils laissé exactement ?
Alors, les astronomes mésopotamiens, ils ont toujours été actifs, puisqu'on a des repères de circulation d'astres depuis que l'écriture existe quasiment. Mais les documents sont très disparates et peu organisés et peu organisables. Mais à partir du XVIIIe siècle avant notre ère, c'est-à-dire à partir du siècle de Hammurabi, disons, les choses deviennent sérieuses et petit à petit se met en place une astronomie mathématique, à savoir qu'on fait des calculs, on fait des observations d'interminables observations. Et quand l'astronome ne peut pas voir, il l'écrit sur ses tablettes, il y a des nuages, je ne vois pas, mais je sais ce qui se passe, parce que je peux le calculer. Parce que j'ai la prédiction des événements qui vont se produire, puisqu'ils sont, alors là, cette fois-ci, cycliques. Le mouvement des astres, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont construit une astronomie scientifique qui est parfaitement, dont la validité est parfaitement reconnue. Ils ont produit des quantités très très grandes de textes qui vont de calendriers à des hémérologies, etc., et qui englobent à peu près tout ce qu'on peut écrire en matière d'astronomie, et surtout un ou deux ou trois grands traités d'astronomie qui étudient le mouvement des astres et des étoiles.
Et qui ont visiblement influencé aussi le monde grec.
Ils sont arrivés autour de l'an 1000 à la circulation du Soleil, et ils ont montré que l'écliptique existait. Ils ont, d'une façon assez maladroite, ils disent que le Soleil circule d'un axe à un autre et puis ralentit sa course ou bien l'accélère. C'était une manière de voir que l'écliptique n'est pas l'équateur et qu'il y a une circulation qui n'est pas parallèle mais qui est légèrement oblique. Ils avaient très bien compris tout cela. Et donc ils avaient commencé à établir des manières aussi de calculer le retour des mois supplémentaires quand il était important d'en mettre. Ils ont découvert, je pense que ce sont eux, et non point les Grecs, parce que les textes les plus anciens sont quand même babyloniens, le zodiaque. Donc ils ont simplement choisi sur le cercle de l'écliptique, la circulation de l'écliptique, 12 signes qui leur étaient plus parlants que d'autres. Et ils les ont identifiés, et les Grecs ont suivi. Alors Ptolémée lui-même, dans son Almageste, explique, à l'opposé des spécialistes modernes, que les Babyloniens ont apporté énormément dans la connaissance du système des étoiles et des planètes, alors que les modernes ont tendance à dire: les Babyloniens ont fait des observations, les Grecs ont fait des calculs et ont monté des schémas géométriques. Eh bien, il a manqué les schémas géométriques aux Babyloniens, mais ils ont fait les calculs et Ptolémée lui-même le reconnaît.
Deux mots peut-être aussi sur l'astrologie qui a un rôle capital puisqu'elle régit le sort du roi et de l'État.
Voilà, l'astrologie, en tout cas au premier millénaire, permet effectivement, les rois suivent les décisions et les propositions des devins et des astrologues pour partir en campagne, pour prendre des décisions politiques qui impliquent l'ensemble de la société. Donc l'astrologie joue effectivement un rôle énorme, et c'est d'ailleurs le savoir intellectuel le plus prisé. On dirait aujourd'hui que c'est la biologie, on aurait dit dans les années 70 que c'est l'astrophysique. C'est l'équivalent comme investissement social de ce que nous mettons aujourd'hui dans la biologie.
Les dieux interviennent aussi dans la vie des hommes. Pour cela, il y a aussi la divination sur laquelle vous travaillez, Jean-Jacques Glessner.
Oui, mais qui est liée au temps, parce que le devin en Mésopotamie, en fait, c'est l'historien, puisqu'il s'intéresse au mouvement du temps, présent, passé et futur. Le passé et la connaissance du passé lui permettant de dire ce qu'est le présent et de éventuellement postuler quelque chose pour l'avenir. et le plus beau texte que je connaisse d'un devin écrit à un roi, c'est de dire j'ai regardé les présages, tout est bon, rassure-toi, je veille sur toi, ô mon roi, l'avenir sera comme le passé.
Jean-Jacques Glasner, merci beaucoup.
Merci à vous.
Jean-Jacques Glasner, je signale au passage que vous ferez sur ce thème une conférence au campus Condorcet. Ce sera vers le mois d'avril, d'après ce que j'ai su. La semaine prochaine, Tsunami dans le Salon Noir et dans les émissions de Sciences de France Culture, où quand les archéologues sont malhonnêtes, la gloire a un prix, le déshonneur aussi. Nous reviendrons sur ce scandale qui fut absolument incroyable, le scandale Fujimura. Le Salon Noir a été réalisé par Danny Journaud, à la technique Tahar Bouklifa, attaché d'émission bien sûr Yaël Mandelbaum, et puis saluons en régie notre plus jeune auditrice Flore, fine connaisseuse de la Polynésie, qui de ses 9 ans a résolument le passé et l'avenir face à elle. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives sur le site inrap.fr.